gentlemen. Guten Abend, bonsoir, good evening. Pickets, do you feel good? Comment ça va?
Bienvenue dans la causerie sur Radio Canu 102.2 sur les ondes FM et puis sur radiocanu.org sur internet. Et ce soir, au-dessus de la table, parce qu'il y en a en dessous aussi.
Oh, non. Mais il fallait pas le dire.
Donc autour de la table, nous avons Stan.
Bonsoir.
Jean-Yves.
Bonsoir.
Fabien.
Salut.
Clara la technique.
Bonsoir.
Et Jonathan qui nous a fait une ouverture qu'on t'avait pas revu depuis longtemps, quoi.
Ben oui, mais c'est ça le travail. C'est l'horreur. Et donc ce soir, alors déjà, si vous voulez nous contacter, hein, quand même, il faudrait peut-être rappeler les bonnes choses. Alors vous pouvez nous contacter où, hein?
Bah par mail, par exemple, c'est une option qui s'offre à vous. Ça se passe à lacausericanu@gmail.com.
Ouais, sinon vous pouvez aller sur les blogs de Radio Canu ou à blogs.radiocanu.org/lacauserie.
Et sinon, vous pouvez partager sur Facebook l'émission, mais ne pas laisser de commentaires parce que Fab s'en fout.
Voilà. On va dire que c'est pour ça.
Tu es responsable d'absolument tout. De toute façon.
Ah bon ? Merde alors. Je n'assume pas tous les sujets de ce soir.
Ce soir, à la causerie, on cherche des victimes. Alors si vous êtes partant, venez. Et donc, tu vas commencer, Stan, par nous parler d'intelligence artificielle ?
Yes. Elles sont parties d'un coup comme ça.
Ouais.
Et oui, donc ce soir, je ne vais pas vous parler de Donald Trump, vu que je vais parler d'intelligence artificielle pour être un petit peu plus précis. Un domaine d'avenir à la fois merveilleux, génial ici, mais à la fois aussi très très inquiétant. L'intelligence artificielle, c'est quoi? On va grossièrement dire que c'est un programme qui analyse et qui comprend des données, mais qui surtout apprend. Qui apprend de ces données, qui apprend aussi de ses erreurs, qui évolue, qui change et qui s'améliore. Enfin, qui va dans son amélioration en tout cas, qui s'optimise. Ça devient incontournable, hein, on a partout dans les trucs un petit peu basiques qu'on sait pas forcément c'est l'intelligence artificielle, mais en fait oui, la reconnaissance vocale sur votre téléphone, les suggestions de vidéos sur YouTube, Netflix, etc. Enfin, on en a vraiment partout, mais ça sert pas qu'à ça, ça sert aussi des fois à sauver des vies. On parle de détermination des risques de complications potentiellement mortelles chez les bébés prématurés. J'ai pris un super exemple très court.
Mais surtout tu l'as dit très très vite,
t'as vu. C'est parce que j'ai répété toute la nuit. Donc on parle d'intelligence artificielle qui permet d'identifier les mouvements d'un corps dans une piscine afin de prévenir les maîtres nageurs d'une personne qui risque de se noyer. L'intelligence artificielle, elle est là, il y a des exemples, mais on pourrait en faire une chronique complète à citer des exemples, mais ça serait super chiant. Elle est là, elle est partout, elle continue d'avancer, hein, dans tous les domaines, et ça va avoir un impact sur notre vie, encore plus conséquent que maintenant, ça va continuer à augmenter, en bien ou en mal. À voir, je citerai Stephen Hawking tout de suite, vous savez le physicien, il touche un tout petit peu sa bille en science ce mec. Pour lui c'est, donc l'intelligence artificielle, c'est la meilleure ou la pire des choses qui ne sera jamais arrivée à l'humanité. Parce que si nous laissons les choses hors de contrôle, ça peut partir loin, très très loin, hors de tout cadre. L'intelligence artificielle peut vraiment donner beaucoup de choses et des choses qu'on n'a pas envie de voir.
Bah, comme par exemple en foutre dans des drones.
Par exemple,
qui est un projet en cours.
Qui, bien entendu, bah, ça va être totalement fait. J'ai pris le parti de regarder les intelligences artificielles uniquement que de deux sociétés que j'ai choisies, j'ai trié sur le volet, Google et Facebook.
Totalement
au hasard. Pourquoi ces deux sociétés? Tout simplement parce que ce sont celles qui récoltent et qui possèdent le plus d'informations sur nous, pauvres êtres humains, bientôt faibles et totalement ridicules par rapport aux machines. Google et Facebook, Google par les mails et par toute notre recherche, par tout ça, ils ont une base de données sur nous qui est extrêmement importante, et Facebook vous connaît par cœur, connaît exactement ce que vous dites et ce que vous faites dans tous les jours de votre vie, donc c'est génial. Ces deux sociétés-là bossent énormément sur l'intelligence artificielle, donc à la fois pour nous aider, pour faire des choses plus ou moins intéressantes, du moins c'est dans leur optique, contre le cyberterrorisme par exemple, contre Facebook aussi, essaye de voir des algos pour prévenir des tentatives de suicide, pour voir au niveau de tout ce qui est dit, de la manière, etc. Est-ce qu'on peut pas intervenir en amont de tout ça? Après, est-ce que ça veut de le faire? C'est toujours le dilemme, mais c'est pas ce qu'on va en discuter aujourd'hui. Voilà, donc... ça va partir très loin, l'intelligence artificielle, et je vais vous donner quelques exemples de situations actuelles. Ça me regarde avec des grands yeux, je bafouille ce soir, je suis désolé.
Mais oui, il était à fond.
Ouais, je suis taquée, moi. Mais c'est vous êtes tout mou ce soir.
Oh merde alors. C'est rare qu'on me dise ça. Pardon.
Donc, je vais donner quelques exemples. On va partir sur chez Google. Google, ils ont donné un petit nom à leur intelligence artificielle. Elle s'appelle DeepMind. Donc, outre le fait qu'elle a prouvé, DeepMind, que c'était c'est le meilleur joueur de jeux de société et de jeux vidéo qui existe. Ça a battu tous les joueurs de jeux d'échecs. Et maintenant, ça a battu tous les joueurs de jeux de Go. Le jeu de Go, pour ceux qui ne connaissent pas vraiment, c'est le jeu qui se joue sur un grand plateau avec des galets, de tout petits galets noirs et blancs. C'est extrêmement complexe. C'est vraiment, les échecs, c'est pour les enfants à côté. J'ai pas envie de me faire des ennemis, mais
non, mais c'est vrai. Puis le jeu de Go, on dit qu'il y a 50% d'intuition.
Oui,
c'est pas que de la réflexion.
Et puis les possibilités, c'est vraiment extraordinaire. Enfin, c'est vraiment très très important. Mais on reste sur des jeux, donc pourquoi pas une intelligence artificielle qui passe en dessus de l'être humain. Bon, là, ça me semble assez logique. Au bout d'un moment, on allait y arriver, c'était une certitude. Mais bien entendu, DeepMind, Google, ils ne s'amusent pas qu'à faire ça pour jouer à des jeux. Ils ne sont pas fous. Et ils travaillent vraiment pour améliorer, pour vraiment arriver sur une intelligence artificielle donc qui est capable d'apprendre, d'évoluer, continuer, etc. Ils l'ont mis un petit peu à rude épreuve il n'y a pas très longtemps. Ils ont fait un petit jeu de ramassage de pommes. Alors, je ne vais pas expliquer en détail le jeu, mais il fallait ramasser des pommes. Et l'intelligence artificielle a un laser pour se défendre. Elle a été confrontée à elle-même, à une autre intelligence artificielle, mais une copie d'elle-même. Avec comme indication, il faut ramasser des pommes. C'est pas ramasser plein de pommes, c'est ramasser des pommes. Voilà. Les conclusions sont assez intéressantes. En fait, l'IA a été confrontée à elle-même, donc, et alors qu'il était possible de faire une égalité, deux intelligences artificielles qui s'affrontent à ramasser des pommes, on pouvait faire 50-50, merci, c'était cool, au revoir. Non, elles se sont tout de suite inquiétées, elles sont devenues extrêmement agressives. En fait, ça a été très stressant comme comportement pour l'intelligence artificielle. Elle est arrivée à des stratégies de... Enfin, elle est devenue cupide, elle a voulu récolter plus que l'adversaire, elle a fait des tentatives de sabotage, elle est devenue extrêmement agressive. Google a accepté l'idée même, en fait, qu'une intelligence artificielle, c'est pas parce qu'on conçoit des intelligences artificielles ça signifie qu'elles estimeront que nos directives et nos intérêts seront une priorité absolue. C'est-à-dire que vraiment, l'intelligence artificielle peut décider que, non, ce que toi, humain, tu as décidé, finalement, moi, je considère que c'est de la merde, donc non. C'est pour ça que Google s'inquiète un petit peu, ils sont déjà en train de bosser sur un espèce de gros bouton, on va le schématiser, mais un gros bouton arrêt d'urgence de tout ce qu'ils font en train de faire pour tout stopper, parce qu'ils savent que ça peut vite partir, ils en sont conscients.
Parce qu'on va rappeler juste que pour l'instant, elle est cantonnée à la recherche, mais qu'on peut très bien la mettre en réseau. Et qu'une fois qu'elle est en réseau, elle peut se sauvegarder, du coup.
Bien entendu.
Parce que voilà, c'est ça qui est derrière.
Juste pour le petit fun aussi, parce que c'est intéressant, DeepMind a également créé d'elle-même une intelligence artificielle. Elle a créé un petit bébé intelligence artificielle sur un domaine qu'elle ne voulait pas forcément directement. Elle a créé un truc, prend un programme, vas-y, apprends, et hop. Donc on est devant quelque chose qui peut se... dupliquer, de s'agrandir. Voilà, donc c'est cool.
Mais en plus, il y a une notion d'esclavage derrière. Je veux pas faire ça, donc je crée quelque chose d'inférieur à moi.
Exactement, qui va le faire à ma place, etc.
Ouais, donc c'est du cynisme pur quand même.
Oui, on voit d'où est-ce que ça a été tiré, un peu de l'être humain. On va passer maintenant du côté de Facebook, qui bosse aussi extrêmement sur tout ça. Donc j'en ai parlé, tentative de suicide, cyberterrorisme, etc. Et aussi pour tout ce qui est chatbot. Alors les chatbots, vous allez retrouver ça un petit peu partout, c'est très tendance, hein. Ça fait 6 mois qu'on entend parler partout. C'est sur tous les sites internet, en bas à droite, des fois il y a une petite fenêtre qui pop comme ça, hop, et puis ça vous dit, hey, si vous avez besoin d'aide... vous pouvez me poser une question. Et en fait, le chat, c'est une intelligence artificielle qui va évoluer, qui va avancer, qui va s'améliorer. Et tu pourras lui poser toutes les questions relatives au site, en fait. Ah, où est-ce qu'elle est ma commande? Qu'est-ce qu'il faut que je fasse dans ces cas-là, etc. Il n'y aura pas un mec qui va écrire derrière, c'est l'intelligence artificielle qui va comprendre ce que tu dis, quelle est ta problématique, et qui va te répondre et qui va t'aiguiller. Donc voilà, bon, pourquoi pas, hein, c'est bien. Ça enlève des métiers à des gens, mais c'est pas... Et là, je vais prendre pour Facebook, je vais prendre qu'une seule expérience. Je vais prendre une expérience, mais qui est assez significative parce qu'elle est absolument géniale. L'IA de Facebook a été confrontée à elle-même dans une optique de marchandage d'objets. Donc ça marchandait des ballons, des chapeaux, enfin on s'en fout, c'est pas un problème. Et donc durant de longues heures, la machine a été confrontée donc à une version d'elle-même et a essayé d'acheter, de revendre et de négocier la meilleure des manières. Et elle a appris une compétence qui n'était pas du tout à développée à l'origine, ils n'avaient pas du tout noté ça, elle s'est mise à mentir d'elle-même, elle a compris que ça pouvait être intéressant de feindre un intérêt pour un produit pour en obtenir un autre. Ou alors de feindre un sacrifice pour obtenir un compromis à son avantage. Oh là là, mais j'adorais ce chapeau, voilà. C'est une intelligence artificielle qui parle. Hein. Mm-hmm. Oh là là, j'adorais ce chapeau, donc si je m'en sépare, vraiment au moins 2 ballons, quoi. Donc ça c'est déjà la première partie, je trouve déjà assez fun, on en arrive à une intelligence artificielle qui peut mentir. Je reviens encore, c'est Facebook, hein, donc c'est Facebook qui a toutes les informations sur vous, qui vous connaît extrêmement bien, donc s'ils arrivent à inventer une intelligence artificielle qui sait mentir en sachant très bien qui vous êtes, vous avez perdu la négociation avant de commencer. Et donc ils ont laissé un petit peu les intelligences artificielles discuter entre elles, et les scientifiques sont rentrés chez eux, ils ont une vie aussi. Et ils sont revenus le lendemain matin, et là, surprise. Sur mon papier, j'ai même écrit « Tada !» parce que ça fait vraiment surprise. Les deux intelligences artificielles ne parlaient plus le langage humain. Elles avaient développé un truc dans la nuit pour discuter entre elles de manière un peu plus rapide et un peu plus optimisée.
Elles ont optimisé le langage.
Elles ont optimisé le langage, ça prenait trop de temps, c'était chiant, donc elles ont optimisé, elles ne parlaient plus le langage humain. Et ce qui est cool, c'est que les scientifiques n'ont pas du tout déjà compris comment elles en sont arrivées là pour l'instant, et surtout n'arrivent toujours pas à décrypter le langage que la machine a créé. Donc, oui, faut pas s'inquiéter, ça va être décrypté, ils vont comprendre, il n'y a pas de problème. Mais on est en face d'une intelligence artificielle qui, en une soirée, peut nous mettre complètement à la bourre et après on galère pendant une semaine et essayer de comprendre ce qui se passe. Donc, ça peut être encore une fois un tout petit peu inquiétant.
C'est un côté Skynet, Terminator,
c'est un côté
tout
très
ça. Très flippant.
Ouais. Je trouve que c'est exactement le scénario Ghost in the Shell. Ouais, c'est-à-dire ça, ouais. Les intelligences artificielles au service des grandes sociétés et finalement qui se retournent contre les humains. Quoi. C'est...
Donc on va récapituler. Hein, les intelligences artificielles, elles font plein de choses formidables. C'est fantastique. Mais elles sont aussi capables de mentir. Elles sont capables d'agressivité, de créer des langages qu'on ne comprend pas, de faire des bébés intelligences artificielles. Elles sont capables de prendre des décisions et de décider que nos décisions à nous, humains, ne vont pas. Donc on est bien. On a un moment plutôt cool. Je vais continuer. Donc si une intelligence artificielle est faite sur nos données, donc à notre image, je ne crois guère en une amélioration de la vie. Je ne vois qu'une optimisation constante, mais non plus par nous, mais par une intelligence artificielle qui prendra des décisions à notre place. Il est urgent de définir une éthique au niveau de l'intelligence artificielle. C'est plus qu'urgent. Il faut vraiment décider ça. Il faut le mettre en place. Il y a dans plein de situations où ça va être extrêmement important. Il y a des choix directs. On avait parlé hein, il y a 2 semaines. Je suis un médecin. J'ai 10 ans d'expérience pour faire une opération, mais j'ai une intelligence artificielle qui me dit non, c'est pas ça qu'il faut que tu fasses, c'est ça. Qu'est-ce que je fais? Comment est-ce que je choisis? Si, voilà, c'est là où il y a une éthique qu'il faut prendre, il y a une méthodologie qu'il faut qu'on mette en place, c'est très important. Et là encore, j'ai presque envie de dire, c'est facile. Maintenant, mettez des intelligences artificielles sur les marchés boursiers, qui vont avoir une finesse extrêmement juste et d'une précision totalement fantastique, qui vont gérer des fortunes et des finances. Par qui? Par des grands groupes, ceux qui ont déjà l'argent. Ça va juste augmenter les richesses pour les riches, augmenter la pauvreté chez les pauvres. Le gouffre ne va que cesser de s'agrandir et on ne va pas aller dans le bon sens encore une fois. Et qui sait, en élection, dans les élections de 2040, vous voterez pour qui? Pour Google ou pour Facebook? Pour diriger votre pays ou votre vie?
C'était la minute. Tu flippes ta race.
Mais pendant la prépa, Fab, tu disais un truc intéressant, c'est qu'on devait respecter certaines règles. Il y a quelqu'un qui en a parlé déjà.
D'ailleurs, Stephen Hawking qui revenait dessus, qui disait il y a quand même une personne qui s'appelle Asimov, qui a écrit énormément sur, qui a écrit les robots, hein, tout ça, et qui a parlé, et qui avait créé, je crois que c'est dans les années 50, 40-50, il avait créé les règles, en fait, des règles qui font que le robot ne peut pas vous dépasser. C'est-à-dire qu'en fait, on met le robot au service de l'homme. On l'oblige, en fait, avec trois règles. Tu ne peux pas tuer les humains ou les blesser, tu es au service des humains et tu ne peux pas te créer toi-même. C'est-à-dire qu'on bloque justement les bébés à intelligence artificielle, on bloque l'idée parce que comme ça on peut pas, on reste maître entre guillemets de l'outil, parce qu'en repère tout ce n'est qu'un outil. Hein. Et le problème, c'est ce que disait Stephen Hawking, c'est que personne n'ait repris des règles aussi évidentes et on balance le truc comme ça et on laisse quasiment grandir. Et la crainte qu'a Stephen Hawking, c'est ce qu'il disait, c'est le jour où une intelligence artificielle se branchera sur le réseau internet et décidera qu'elle ne doit pas mourir. Et là, en fait, elle est indestructible parce qu'elle va se dupliquer, se balader, et on ne sait pas où ça, ce que ça peut faire derrière, quoi. Voilà, c'est ça qui est, enfin, je trouve, ça a l'air comme ça d'un scénario de science-fiction, mais en fait, c'est ce que disait Stan, hein, c'est une intelligence artificielle qui crée une mini elle-même pour faire une tâche qu'elle n'a pas envie de faire. Mmh. Et puis, on peut imaginer si elle se met sur le réseau internet le nombre de mini elle-même qu'elle peut créer partout, de choses comme ça, et puis de décider que moi je meurs pas, quoi. Voilà. Et donc, c'est flippant.
Et un des trucs inquiétants actuellement, et c'est pour ça qu'ils n'ont pas vraiment mis d'éthique autour de tout ça, c'est que c'est plein de sociétés qui bossent chacune de leur côté. Donc, il y a aspect très compétitif, en fait. Il faut qu'on fasse la meilleure intelligence artificielle. Pour l'instant, il n'y a pas de rassemblement commun en disant, là, on est parti trop loin là-dessus, etc. Pour l'instant, c'est chacun fait au mieux, enfin, au pire, mais à voir.
Mais encore une fois, on a de l'économique et pas de politique.
Exactement.
C'est ça le problème.
Parfait, musique ?
Allez. Thank you.
Oula, j'ai un super retour, c'est affreux. De retour sur La Causerie 102.2, dimanche soir, 22h à 23h. La plus rebelle des radios, Radio Canu,
tous les trucs là. Voilà.
On vient de s'écouter Emel Matlouti avec le titre Einstein.
C'était tout planant.
Oui, c'est très joli.
Ah, c'est joli. Il y a vraiment une histoire autour. Enfin, cette personne-là est très, très intéressante. Elle a un gros vécu. Allez vous renseigner, c'est très intéressant.
D'accord.
Et eh ben, pardon, oui, je crois que en deuxième sujet, c'était Fab, que tu voulais nous parler d'un truc dont on n'est pas vraiment sûr que ça existe, mais bon, vas-y, parle-en, quoi.
Il paraît que ça a été inventé par les Asiatiques. Il y a un mec qui l'a dit
d'après,
il n'y a pas longtemps.
C'est vrai. Donald T. En fait, oui, alors je vais. C'est soirée des primes ce soir à La Causerie. Donc, en fait, je vais vous parler du réchauffement climatique. Je reviens régulièrement sur le sujet dans l'émission, mais je trouve intéressant parce que là, en fait, il y a eu trois articles qui sont sortis coup sur coup dans ce qu'on appelle les médias de masse et surtout qui ont été énormément relayés sur les médias sociaux, comme on dit maintenant, ou réseaux sociaux. Et donc c'était assez intéressant de voir que ben, finalement l'information est connue mais qu'elle ne suscite pas vraiment de réaction à grande échelle, si ce n'est de faire like et je partage. Donc voilà, donc c'est, la première c'est que le permafrost fond plus vite que prévu. Alors je vais rappeler que le permafrost c'est les terres qui se trouvent au nord du globe, voilà, donc une partie de la Sibérie. Il y a une partie de l'Alaska aussi, voilà, une petite partie du nord du Groenland, enfin du bas du Groenland, une partie aussi de la Suède, de la Norvège et de la Finlande, qui en fait ont des terres gelées. Qui sont gelés en fait depuis des milliers d'années, qui n'ont jamais dégelé parce que on est dans une zone où on ne remontait pas au-dessus de zéro jusqu'à maintenant. Et ces terres ont la particularité d'avoir été extrêmement habitées à une époque, contrairement à ce qu'on peut croire. Et donc en fait elles sont pleines de vie morte, mais qui donc décomposée. Et quand la vie se décompose, elle fait du méthane. Et le méthane, en fait, a un effet de serre 25 fois supérieur au dioxyde de carbone. Donc, c'est-à-dire que le fait que le permafrost fonde, ça libère beaucoup plus de méthane qui va réchauffer plus vite l'atmosphère, ce qui accélère en fait le réchauffement climatique. Et autre chose, il y a aussi dans ces sols énormément de virus et de bactéries anciennes qui peuvent être très très dangereuses pour la vie sur Terre, enfin sur les voilà, enfin une partie de la vie parce que la vie ne disparaît jamais entièrement. Voilà. Le deuxième article, c'est que les glaces de l'Arctique fondent plus vite que prévu. Donc, c'est-à-dire le Groenland, hein, pour un petit peu voir un petit peu où se trouve l'Arctique, hein, et le pôle Nord. Et en fait, bah, elles fondent pas un tout petit peu plus vite que prévu. En fait, elles fondent deux à trois fois plus vite que ce qu'on avait estimé. Hein. Tout va bien. Alors elle, là, c'est un effet en réalité direct sur le Gulf Stream qui se ralentit parce que le problème d'un courant, c'est une différence entre la densité de l'eau salée et j'allais dire sucrée, pas du tout, salée et douce, n'importe quoi, entre l'eau salée et douce et entre les températures entre le fond et la surface de l'océan. Et en fait, quand vous rajoutez de l'eau douce plus que prévu, ben en fait, vous ralentissez les courants, c'est généralement ce qui se produit, et le Gulf Stream se ralentit. Alors on va être très clair. Hein, la canicule qu'on a vécu ces trois il y a une semaine de ça, pendant trois semaines sur quasiment l'ensemble de l'Europe de l'Est, de l'Europe de l'Ouest, pardon, ben en fait, les scientifiques sont persuadés aujourd'hui, avec les modèles mathématiques qu'ils ont, que c'est lié à au ralentissement du Gulf Stream. C'est qu'en fait, on est en train d'avoir ce qu'on appelle un climat montréalais. Alors, coucou aux Canadiens. C'est en fait une transformation du climat de l'Europe et qu'en fait, on va avoir de plus en plus souvent des pics de chaleur comme ça, suivis généralement de grands pics de pluie, puis des pics de chaleur, puis de la pluie, puis de la chaleur, puis de la pluie, et ainsi de suite. Parce que c'est un mélange entre le climat continental et cette espèce de climat un peu bizarre qui ressemble à celui du Canada à hauteur de Montréal. Voilà. Et le troisième article qui a été beaucoup partagé, c'est qu'il resterait 3 ans pour agir pour arrêter cela. Alors, on va être très clair, ces articles, c'est de la fumisterie. Oui, tous les grands médias ont repris ce titre, 3 ans pour agir pour arrêter cela. Or, les scientifiques n'ont jamais écrit ça. Ils ont écrit, il reste 3 ans pour agir pour ralentir le rythme du réchauffement climatique. Ça ne veut pas dire arrêter. Alors, prenons un exemple, une voiture à 100 km/h qui passe à 50 ne s'arrête pas, elle ralentit, on est d'accord. Et ben, en fait, c'est ça qu'ils ont écrit les scientifiques. Donc, j'invite tous les journalistes à aller se mettre devant une voiture à 50 km/h pour voir si c'est pareil qu'à 100, mais en fait ça fait mal aussi. C'est-à-dire qu'il y aura quand même un réchauffement climatique. Et le problème des scientifiques, c'est qu'ils disent oui, on a 3 ans en gros pour éviter qu'on passe ce qu'on appelle la barrière catastrophique. C'est comme ça qu'ils l'appellent, c'est-à-dire qu'on aille au-delà des 5 degrés de plus par rapport à 1980. Donc c'est cette donnée-là qui est importante en fait. Et les scientifiques d'ailleurs disent la vraie barrière qu'on devrait prendre, c'est pas 1990 comme c'est pris de partout, parce que ça c'est de la fumisterie, parce qu'on avait déjà commencé le réchauffement climatique. La vraie barrière, c'est en réalité 1970. Alors pourquoi ? Parce que c'est à cette époque-là qu'on commence à avoir un basculement et un début de réchauffement. Sauf qu'on sait de façon certaine qu'en 1970, on a commencé à se réchauffer par rapport à ce qu'on avait émis entre 1940 et 1970. Donc voilà, on sait qu'il y a un décalage dans le réchauffement climatique. Donc les scientifiques, pour eux, ils le disent clairement, il est beaucoup trop tard pour penser arrêter le réchauffement climatique. On peut commencer à le freiner, oui. On peut faire en sorte qu'il ne soit pas trop rapide, oui. Mais par contre, il va y avoir un réchauffement climatique, très clairement. Le réchauffement d'aujourd'hui, il est lié au CO2 des années 90-2000. Pourquoi ? Parce que je vous rappelle que Georges nous expliquait dans son émission de la semaine dernière que l'atmosphère, elle est sur 40 km de haut, vous voyez ? Et donc forcément, quand on rajoute du CO2, le temps que ça se réchauffe entièrement, que ça se dilue dans 40 km de haut, machin et tout, ça prend un peu de temps. Et en fait, on sait que les effets du réchauffement aujourd'hui, d'un point de vue symbolique, parce que c'est pas la molécule de CO2 émise en 1990, mais c'est les volumes, en fait, ces réchauffements, c'est plutôt lié à ce qu'on a déjà émis dans les années 90-2000, et on ne compte pas encore ce qu'on a émis jusqu'à aujourd'hui. Le problème, c'est que dans le même temps, nous avons une augmentation en volume de 13% par an depuis les années 2000 de CO2 émis dans l'atmosphère. C'est-à-dire chaque année, on envoie 1,13 fois ce qu'on a déjà envoyé. Donc ça ne marche pas très bien. Et ça veut surtout dire qu'avec le décalage lié au volume de l'atmosphère, ce que je vous disais, le temps de réchauffement, tout ça et tout ça, et ben les effets de ce que nous rejetons aujourd'hui vont se faire sentir dans quelques années et du coup vont accélérer, parce que comme on rejette à chaque fois un peu plus encore que ce qu'on a rejeté les années d'avant, et ben ça ne peut qu'aller en accélérant. C'est le principe de l'essence, hein. Plus vous mettez d'essence, plus vous roulez vite, hein, c'est pareil. La fonte des glaces, ben du coup ça entraîne le dérèglement des courants marins et donc de la hauteur des océans. Du coup, les effets sont pires que ce qu'ils avaient imaginé dans le pire des scénarios, pour vous dire. C'est-à-dire qu'à un moment donné, ils ont repris leurs données, ils ont dit « Ah là, en fait, ça va plus vite et c'est pire que ce qu'on pensait ». Ils s'accordent sur le fait que la canicule qu'on a connue, donc je vous disais, est liée au ralentissement du Gulf Stream. Ils s'accordent aussi sur le fait que le phénomène El Niño, El Niña, qui est revenu au bout de 2 ans au lieu de 7, c'est lié à ça aussi. Donc c'est des grandes sécheresses, soit en Amérique du Sud, soit en Inde. Ils s'accordent aussi sur le fait, assez rapidement, qu'une ville comme Bordeaux va assez vite avoir le même climat que Montréal, hein, pour être très clair. Donc des hivers qui peuvent être très très froids, mais des étés très très chauds. Voilà. Pourtant on est en bord d'océan, mais voilà, c'est plus protégé par le Gulf Stream. Et qu'une ville comme Lyon devrait assez rapidement, c'est-à-dire qu'ils estiment sous 10 à 15 ans, avoir le même climat que Marseille aujourd'hui. Voilà. C'est juste pour... C'est les dernières statistiques qu'ils ont fait, et encore ils estiment qu'ils sont peut-être un petit peu optimistes, je vous le dis comme ça. Et c'est un consensus, hein, c'est pas juste un ou deux scientifiques, c'est des groupements de scientifiques partout dans le monde. Il y a des Russes, il y a des Américains, il y a des Européens, voilà, il y a des Africains aussi qui travaillent sur le sujet. Et là où c'est le pire, c'est que les zones invivables, faute d'eau ou à cause des chaleurs excessives, ou les deux, en fait, se révèlent plus vastes que prévu, elles apparaissent plus vite que prévu. Et ça, c'est le phénomène le plus emmerdant, en fait. C'est qu'en fait, ils estiment que d'ici 2100, chaque année, c'est entre 40 millions et 200 millions de personnes qui vont devoir migrer pour échapper à des zones de vie invivables. Voilà. Je vous refais le chiffre, hein, 40 à 200 millions de personnes. C'est-à-dire qu'en gros, entre aujourd'hui et 2100, ça pourrait concerner jusqu'à 2,7 milliards de personnes qui vont devoir se déplacer. On voit quand il y a quelques milliers ou millions de migrants qui se déplacent à cause de guerre, ce que ça donne. Donc vous imaginez si on parle en termes de milliards. Alors bien sûr, c'est ce qu'ils disent. Tout le monde va faire des milliers de kilomètres. Ça peut être se déplacer de 10 kilomètres en fonction de là où on habite. Ou
oui, ça peut être
ça.
Des déplacements même internes, en
oui,
fait.
Oui, internes au pays.
Au pays.
Alors, c'est déjà le cas, par exemple, au Mexique, où toute une région du Mexique est en train de se vider totalement parce qu'elle est en train de se désertifier. Et en fait, les gens vont majoritairement vers les régions où il y a encore de l'agriculture, de l'eau ou dans les grandes villes. Sauf que le Mexique, aujourd'hui, se retrouve avec une population qui se concentre de plus en plus sur un territoire de plus en plus réduit. Et ça explique d'ailleurs une partie de la migration des Mexicains vers les États-Unis. Parce que évidemment, il y a aussi ça qui rentre en compte. Il n'y a pas que le côté économique, contrairement à ce qu'on croit, même si ça a un impact économique, mais c'est aussi la survie qui se met en place. Vous voyez. Alors, les scientifiques disent qu'il est temps de s'adapter. Donc l'urgence aujourd'hui, c'est donc de faire en sorte de ralentir, évidemment, parce qu'on va pas se mettre à l'accélérer. Mais donc on pourra, je le redis, pas l'éviter, contrairement à ce que continuent à dire les médias. Non, on peut pas éviter. On est dedans, donc de toute façon, on n'a pas le choix. Et surtout, il faut qu'on s'adapte au plus vite. Alors, dans les mesures d'urgence à prendre dans les 10 ans à venir, hein, pour ralentir les choses, les scientifiques, alors là, c'est le GIEC, hein, donc le groupement international de l'étude du climat, qui s'est mis autour de la table. C'est le travail d'une quasiment 40 000 scientifiques en tout. Alors, pas tous en même temps, mais c'est des métadonnées, ils ont récupéré tout ce qu'il y avait à droite à gauche. C'est hyper intéressant, faut le dire, c'est en ligne sur le site de l'ONU, hein, donc c'est très intéressant. Donc, eux, ils préconisent qu'il faut qu'on diminue par 9 le volume de CO2 émis par les transports. Voilà, par 9, hein. Une broutille.
Facile, alors, en 10 ans, aucun problème.
Voilà. Mais c'est ce qu'il faudrait faire. C'est-à-dire qu'après, à un moment donné, eux, ils sont pas là pour dire c'est faisable ou c'est pas faisable. Il faudrait faire ça. Maintenant, démerdez-vous parce qu'ils ont pas non plus toutes les solutions. Alors, comme les véhicules électriques sont de toute façon pas la solution à court terme, ils ont quand même des pistes. Ils disent qu'il faut remettre très rapidement en place des réseaux ferroviaires et fluviaux en nombre. Et donc, c'est-à-dire qu'il faut rouvrir les fleuves et rouvrir toutes les lignes de train, les petites lignes de train qu'on avait fermées partout dans le monde. Il faut les rouvrir parce que le ferroviaire fait quasiment pas de CO2. Donc, c'est un peu pratique, hein. Et puis surtout, c'est ce qu'ils disent, il faut aller plus vers plus de transports en commun. Covoiturage, bus, train, rallonger les trains aussi, ils préconisent ça, de dire faisons des trains de voyageurs plus longs, si on peut, pas là où on peut, quand on peut. Voilà. Et puis, comme ils disent, accepter de voyager plus lentement. C'est-à-dire de dire, oui, on mettra 9 heures au lieu de mettre 2 heures, mais voilà. Il y a la deuxième chose, c'est la diminution du commerce international et la relocalisation dans les pays. Alors attention, ils nous font pas une crise de nationalisme. Comme ils disent, ils se foutent complètement des frontières, ils le disent d'ailleurs dans leur rapport, c'est pas du tout ce qu'ils sont en train de dire, c'est qu'ils disent qu'il faut juste revenir à l'idée qu'il faut faire des usines plus petites, qui produisent dans plusieurs endroits, plutôt que d'avoir une grande et grosse usine, par exemple en Chine, en Inde ou même en Europe, qui produit pour l'ensemble du monde. Parce que comme ils disent, le vrai problème, c'est quand vous faites comme ça, après il faut que vous déplaciez vos produits, et quand vous les déplacez, vous faites des tonnes de CO2 parce qu'en fait vous partez d'un point et vous irriguez des milliers de points au lieu de construire à différents endroits et qu'on pourrait peut-être réfléchir autrement pour la production. Voilà, le but c'est d'éviter au maximum les transports en fait. Voilà. Et bien sûr, là-dessus, ils rajoutent réfléchir à des nouveaux types de plastique, se passer du pétrole, enfin il y a tout ça et aussi dans leurs idées. Et puis bien sûr, ils préconisent la relocalisation de l'agriculture à hauteur de 90% des produits consommés. Alors, pour votre information, en France aujourd'hui, dans les grandes surfaces, parce que c'est le chiffre que j'ai, 59% de ce que vous consommez n'est pas produit à moins de 100 km de où vous êtes. En moyenne, d'ailleurs, une tomate fait à peu près, le chiffre, je l'ai en tête et j'ai halluciné moi-même, fait 670 km avant d'arriver dans votre assiette. Donc c'est un peu surréaliste, mais c'est la moyenne. Donc vous voyez, donc c'est ça, c'est ce qu'ils disent, c'est que c'est complètement idiot. En théorie, on devrait pouvoir manger avec les terres qu'on a autour de nous. Donc bien sûr, ça va aussi de pair avec le fait d'arrêter de faire des pavillons partout, d'arrêter de bétonner l'équivalent d'un stade de foot toutes les 5 minutes en France aujourd'hui, parce que c'est ce qui se passe aujourd'hui. Oui, un stade de foot toutes les 5 minutes, jour et nuit, hein, est bétonné aujourd'hui. Donc, c'est-à-dire que c'est autant de terres arables qu'on enlève. Hein.
C'est qu'on aime tellement le foot aussi.
C'est ça. Donc, voilà. Donc, ça, c'était pour les mesures d'urgence. Et ils le savent pertinemment, c'est que ça risque de pas être fait. Mais enfin, eux, ils sont juste là pour dire... Il faudrait faire ça. Après, comme ils le disent, ils n'ont pas un rôle politique, ils ont un rôle de consultation et donc de scientifique, donc ils font leur boulot. Et bien sûr, ils préconisent des mesures d'adaptation, parce que pour eux, c'est ce qu'il y a de plus urgent aujourd'hui. Dans les mesures d'adaptation, ils le disent tout de suite, il ne faut pas penser en termes de nation, ni de bloc, mais dans un monde sans frontières, nous parlons de l'humanité. Voilà, ça c'est l'introduction des scientifiques. Vous voyez, c'est qu'ils disent à un moment donné, oui, on est tous, mais on est avant tout l'humanité. Donc voilà, qu'est-ce qu'on fait pour nous, quoi.
À un moment, on est tous dans la merde.
C'est ça, c'est pas juste les certains. Voilà, c'est pas parce que Donald Trump veut pas croire au réchauffement climatique que les États-Unis vont y échapper. Vous voyez, ça marche pas comme ça. Donc ils disent, il faut qu'on lance en urgence des études et des prévisions de la désertification avec comme but de prévoir les mouvements de population en amont, c'est-à-dire ne pas attendre que la zone se désertifie pour que les gens soient déplacés, mais bien pouvoir l'anticiper le plus possible et permettre d'éviter, selon eux, des clashs armés, des guerres ou des massacres. Parce qu'ils disent, plus on prévoit en amont, plus on fait de la solidarité et plus c'est compris, alors que si les gens débarquent d'un seul coup, forcément ça crée des tensions. Voilà. Études et prévisions de la perte de l'accès à l'eau, parce qu'ils disent que ça va être aussi une des vraies problématiques. afin de prévoir une répartition des populations afin de garantir l'accès à l'eau pour tous et pour toutes. Voilà, c'est ce qu'ils disent, c'est que on doit inscrire pour eux, les policiers scientifiques, on doit inscrire l'accès à l'eau dans les droits fondamentaux de l'être humain. Parce qu'en fait, comme ils disent, un être humain peut ne... Alors je reprends ce qu'ils avaient dit. Un être humain peut ne pas manger pendant 15 jours sans mourir, un être humain ne peut pas ne pas boire pendant une journée. Voilà, c'est simplement ça en fait. Quand on réfléchit à comme ça, on voit l'importance de l'accès à l'eau. La mise en place de recherches en urgence sur la désalinisation de l'eau et sur la dépollution des eaux. Parce qu'en fait, ils disent qu'on a énormément de ressources d'eau potable, sauf qu'elle est polluée à mort, donc il faut arriver à la dépolluer le plus vite possible. Et pareil pour la désalinisation, eux, ils ne le préconisent pas comme une solution à terme, mais pour une solution d'urgence pour les populations qui vont se retrouver privées d'eau aujourd'hui et qu'il faut qu'on trouve une solution pour, voilà, pour que les gens puissent simplement boire, quoi. C'est très très bête, mais voilà. Et puis ben, eux, ils disent, hein, mise en commun des connaissances sur le climat avec pour but de prévoir au mieux les catastrophes naturelles qui vont continuer à augmenter. Alors ouragans, typhons, tornades, feux de forêt, tempêtes, etc., etc. Où il disait aussi les blizzards, les grands blights. Je ne sais pas ce que ça veut dire, le blight. Mais, ben après, c'est beaucoup de froid, a priori, si j'ai bien compris. Voilà, et alors, je voulais parler de ça parce que ces mesures sont la base de ce qu'il faut mettre en place et pas la panacée qui nous sortira entièrement de la merde, hein, pour être clair. C'est juste, d'après eux, le minimum. Hein, voilà. C'est aussi extrêmement politique. Parce qu'en réalité, bah, il faut trouver rapidement une idée toute bête, c'est que l'humanité est une et indivisible. Et que du coup, bah, si on commence à se dire qu'on veut sauver tout le monde, il faut s'y mettre maintenant. Sinon, en fait, le capitalisme a savoir-faire. Il va laisser mourir des millions, voire des milliards de personnes, tant qu'il aura des consommateurs de l'autre côté pour continuer à vivre. Donc il faut juste réfléchir en termes de sortie du capital, en fait, du capitalisme, ni plus ni moins. Et cesser, en fait, de penser les particularismes. C'est, l'idée, c'est ça, c'est que, bah oui, l'autre, il n'a pas la même religion que toi, oui, l'autre, il est plus basané que toi, oui, et l'autre, il ne mange pas comme toi. Ouais, sauf qu'en fait, au final, on est tous membres de l'humanité et qu'on est face à un problème qui nous concerne tous et pas juste les États-Unis, la France ou je ne sais qui, c'est tout le monde, en fait. Et puis, bah, le défi, en fait, est pour la survie de l'espèce humaine, parce que je vais rappeler quelque chose que rappellent les scientifiques, hein. La planète, elle s'en fout, elle en a connu d'autres, et très franchement, si on venait à disparaître, ça lui ferait ni chaud ni froid, d'autant plus qu'elle n'a pas d'âme. Voilà, c'était juste... je voulais juste revenir là-dessus, parce que je trouvais étonnant que tout ça circule et que finalement, les gens se soient habitués, comme si c'était, il n'y avait rien à faire, voilà, c'est un peu le truc.
Bah, dans une société où, en ce moment, on est plutôt en marche, comment dire, c'est quand même une marche vers le capitalisme, vers le plus, vers le c'est plus, ça. Et que forcément, majoritairement, à travers le monde, en fait, il n'y a que ça, quoi, comme idée. Et comme idéologie,
oui.
Politique, économique, etc. Donc c'est... Enfin, pour moi, c'est... Ouais, enfin, il faut un renversement idéologique et politique, quoi. Et que...
Alors, clairement, pour les scientifiques, je suis assez d'accord avec eux. Ils disent que plus l'information est connue, plus les peuples s'en saisissent. Ouais. Et qu'en fait, ils comptent pas sur les dirigeants. Enfin, ils le disent pas comme ça parce qu'ils peuvent pas. Mais on sent quand même dans la façon, dans les interviews qu'ils donnent, beaucoup de scientifiques, des climatologues disent à un moment donné, c'est aux populations de s'emparer du sujet et d'arrêter d'attendre. Parce que, en fait, il faut mettre des coups de pied au cul aux politiques qui sont quasiment tous inféodés à des grands systèmes boursiers, capitalistes et autres, et qui finalement mettent en second l'humanité. Il faut arrêter de se mentir, quoi. Je veux dire clairement. Et donc, du coup, ils disent, c'est à vous, les peuples, de vous dire, mais putain, mais mon voisin, je l'aime bien. Même mon voisin qui est à 10 000 km, je l'aime bien parce que c'est mon semblable. Vous voyez ce que je veux dire?
Mais même moi.
Mais voilà, mais même moi déjà.
Même moi, je l'aime bien. J'ai envie de survivre.
En fait, c'est ça, c'est ce qu'ils disent, sortir de l'égoïsme et penser large. C'est-à-dire, moi, il y a un scientifique qui disait ça. C'est sortez de votre nombril, regardez ce que vous aimez. Et vous n'êtes pas tout seul, en fait. En général, vous aimez votre famille, vous aimez vos amis, vous aimez tout ça. Et en fait, bah, si on s'y met tous ensemble, c'est ce qu'il disait, ça marche beaucoup mieux que si on regarde tous notre nombril et qu'on se dit, moi, je vais m'en sortir. Vous voyez, c'est le truc. Voilà. Et c'est, moi, je trouve ça intéressant parce que il y a un vrai internationalisme qui se crée autour de ce sujet-là, et ce serait bien de pas passer à côté, quoi. Parce que surtout que c'est notre survie, donc voilà. Et pourquoi tu rigoles, toi?
C'est rien, je pensais à Grégoire, à toi, plus moi. C'est pas bon, ouais.
C'est interdit à Jonathan qui l'a fait une fois, on l'a dit plus jamais. Et sinon, j'espère, Jean-Yves, t'as un super sujet après, parce que je commence à être déprimé, là.
Pas forcément, mais en tout cas, il faut évidemment prendre conscience de ce qui nous entoure et ce qui fait nos sociétés pour qu'on puisse, à un moment donné, se poser pour les changer.
On peut quand même dire, amis auditrices, auditeurs, prends un pétard, prends à boire, prends ce que tu veux, ça va aller.
Allez, okay. Musique.
I hurt myself today to see if I still feel. I focus on the pain, the only thing that's real. The needle tears a hole, the old familiar sting. Try to kill it all away, but I remember everything. What have I become? My sweetest friend, everyone I know goes away in the end. And you could have it all, my empire of dirt. I will let you down, I will make you hurt.
You stay the hell away from me, you hear?
I wear this crown of thorns upon my liar's chair, full of broken thoughts I cannot repair. Beneath the stains of time, the feelings disappear. You are someone else, I am still right here. What have I become? My sweetest friend, everyone I know away in the end. And you could have it all, my empire of dirt. I will let you down, I will make you hurt. If I could start find a way.
Et vous êtes de retour dans la causerie sur Radio Canu au 102.2 ou sur Internet parce que vous êtes super moderne. Et c'était donc Johnny Cash avec Hurt. C'est une reprise de Nine Inch Nails, pardon. Et voilà, c'est une super belle chanson. Je vous invite à lire la traduction si vous ne comprenez pas en anglais. Et c'est vraiment un des plus beaux textes, je trouve, qui est sur le, ouais, sur le moment où on a envie de voir si on est encore vivant.
Et si vous êtes moins moderne, il reste le Minitel. Voilà, 36-15 la causerie.
N'importe quoi. D'accord, 36-15 la causerie. Ça, tu l'as faite, celle-là. Ouais. Putain, arrête. Déjà qu'on parle de nous dans Slam. Alors, nous pouvons continuer. Vieux, quoi. Nous pouvons continuer, oui. Avec Jean-Yves qui va nous parler de la société civile.
Mais oui, je vais vous parler de la société civile. Cette société civile qui serait, à en croire les commentateurs et les politiques, la clé du changement. Vraiment, c'est la clé du changement dans la politique politicienne, dans le système de démocratie représentative, et qui, évidemment, changerait tout ou presque, en fait, hein, dans nos vies. Ça, c'est quand même génial. Et il faut se rappeler que ce terme de société civile n'est pas que porté par cette majorité en marche vers on ne sait pas quoi, mais ils y sont. Et ça a aussi été porté par Hamon ou Mélenchon, en fait, durant les dernières campagnes qui ont eu lieu.
Alors déjà, on peut peut-être se demander, en fait, c'est quoi la société civile ? En fait, ça s'oppose ou ça complète quoi, en fait, la société civile ? Est-ce que c'est comme le nucléaire ? C'est-à-dire qu'il y a une société civile et une société militaire ? Comme le nucléaire, donc ? On ne sait pas. Est-ce que ça s'oppose ou ça complète la société politique ? Judiciaire ? Je sais pas non plus. Mais je vous pose des questions, hein, si vous avez des réponses, je suis vraiment preneur. Donc, alors, à première vue, quand même, parce qu'il y a des trucs que j'ai un petit peu compris, quand même, hein, en tout cas, j'essaye. À première vue, donc, ça s'opposerait, ou du moins, ça viendrait compléter les pros de la politique. Et ce qui, bon, selon moi, en fait, ça renforce cette idée qu'en dehors des pros de la politique, bah, on fait pas vraiment de politique, ou du moins, on n'est pas vraiment toutes et tous aptes à faire de la politique. Donc, ce qui expliquerait peut-être que certains ministres et autres députés sont en ce moment font des séminaires le week-end. C'est quand même génial, hein, comme en entreprise. On fait des séminaires. Enfin bon, bref. Donc c'est peut-être ça. On ne sait pas. Donc, pour pas se compliquer le truc, hein, on va faire abstraction de ces premières questions et réflexions. Et on va aller sur d'autres, hein, parce que sinon ça devient chiant. Et alors on peut aussi effectivement se demander ce que ça changerait pour nous, en fait, cette politique... pour la politique et pour nous, en fait, cette société civile, en fait. Est-ce que c'est pour renouveler la classe politique ? Alors quand même, j'aimerais rappeler qu'avant que certains deviennent des pros de la politique, bah, ils sont aussi assez logiquement issus de la société civile, en fait, hein, parce qu'on ne naît pas dans un... Je sais pas, dans une... Je sais pas.
Dans une certaine famille, si.
Ouais, peut-être, mais...
Oh, dans plusieurs, hein.
Mais... pas voilà. Tous forcément non plus. Enfin,
non, on est d'accord.
C'est un petit peu étrange. Donc voilà.
Bah, est-ce que... L'exemple typique étant notre nouveau grand président, hein, oui. Qui était donc de la société civile, comme on dit, et qui maintenant est devenu un pro de la politique, a priori.
A priori. En tout cas, il en marche pour l'être. Et alors, est-ce que la société civile serait plus proche de la réalité ? Alors, dans ce cas-là.
C'est ce qu'on nous a fait croire.
Bah, alors, j'ai une autre question. Quelle réalité ? Parce que je pense que la réalité de celle ou celui qui se lève à 4h du mat', un SMIC maximum est pas forcément la même que de celui ou celle qui se lève un peu plus tard, qui fait un autre métier. Donc nos réalités sont, justement, il y a des réalités, il n'y a pas une réalité. Est-ce que cette société civile serait, justement, pour qu'on se sente mieux avec, bah, plus représentative, par exemple, socialement parlant, par exemple, que les milieux issus stricto sensu des partis politiques? Pas convaincu non plus.
Ce serait même plutôt l'inverse, d'ailleurs.
Ouais. Est-ce que cette société civile serait en dehors de la politique politicienne, justement, ce qu'on dénonce souvent, la politique politicienne, entendu donc des partis et de toute cette magouille, enfin bon. Parce que si on ne fait pas de carrière politique, est-ce qu'on ne fait pas de politique ? Ce qui voudrait dire qu'encore une fois, s'il n'y avait pas les pros, il n'y aurait pas de politique. Enfin bon, c'est absolument... C'est absolument pas possible, en fait. Parce que, évidemment, ce que je me suis noté, c'est parce que c'est connu, quoi. La politique, c'est les partis politiques. En dehors, c'est rien. Bon, je... Tant qu'anarchiste, j'ai un peu du mal, quand même, à croire à cette idée-là, me disant que... Enfin, parce que je pense que tout est politique, absolument tout le temps, partout, en fait. Enfin, de nos petites vies à nous, à la gestion du monde. Donc... Donc ce que je vous propose, c'est un peu de regarder avec, avec des faits quand même, d'où viennent ces personnes de la société civile.
Quelques-unes.
Tu ne
vas pas nous faire tous les députés.
Ah non, parce qu'il y en a un paquet là quand même. Hein, donc j'en ai pris quelques-unes, alors qui sont au gouvernement. Hein, donc je précise quand même. Donc j'ai pris Marlène Schiappa, par exemple, qui est secrétaire d'État à l'égalité homme-femme, qui vient, elle, du milieu associatif, effectivement. Elle a créé une asso, je ne sais plus comment. Maman... Je sais plus.
Tout est égal, non ?
Non.
C'est pour rien.
Donc, et alors, ce qui est par contre dommage, c'est qu'on oublie de dire quand même qu'en 2001, ce qui est un petit paquet d'années quand même, elle s'est présentée aux élections municipales de Paris. Bon, elle a aussi ensuite été élue au Mans en 2014 sous les couleurs de la gauche, couleur qu'elle a redéfendue au départemental en 2015. Elle n'est pas non plus complètement dénuée d'expérience gouvernementale, vu qu'en 2016, elle a participé au cabinet de Laurence Rossignol, ministre des Familles, de l'Enfance et des Droits des Femmes, et dans le gouvernement Valls III. Bon, C'est une vision particulière de dire qu'elle vient de la société civile, un sens expérience dans la politique. L'autre exemple, j'ai Elisabeth Borne, qui est ministre auprès du ministre de la Transition écologique et elle est chargée des transports. Bon, elle a été à la tête de la RATP. Bon, on a aussi un petit peu oublié de dire que elle fréquente les cabinets ministériels depuis à peu près 1990. C'était pas hier non plus. Hein. Elle a conseillé Lionel Jospin à l'éducation entre 91 et 93. Puis elle a à nouveau bossé avec Jospin quand il était Premier ministre entre 97 et 2002. Donc, et qu'après son expérience dans le privé, elle renoue avec l'administration en intégrant le cabinet de Ségolène Royal entre 2014 et 2015. Donc, et elle a aussi été notamment hein, quand même un truc un petit peu... la première femme à devenir... préfète de la région Poitou-Charentes.
Si c'est pas politique, un préfet, ou enfin une préfète en l'occurrence.
Non, c'est pas politique.
pas du tout.
Pas du tout. Autre exemple, Mounir Majoubi, qui est secrétaire d'État chargé au numérique. Bon, il a été encarté au Parti Socialiste, hein, c'est pas grave, on a le droit de faire des... Enfin, de faire ce qu'on veut, quoi. Il s'est impliqué dans la primaire en 2011, donc c'était pas hier non plus, hein. Avant de participer à la campagne de François Hollande en 2012, donc c'était pas la dernière campagne non plus. Et ce dernier, d'ailleurs, François Hollande, l'avait nommé président du Conseil national du numérique en 2016. Et parce qu'il est vraiment en dehors du monde politique, en 2009, il a obtenu un master en finance et stratégie à l'Institut d'École politique de Paris. Et il est aussi patron de différentes entreprises et start-up.
C'était pas lui la tête de la Ségosphère aussi ?
Si, c'est ça.
Ah oui, avec Ségolène Royal, le réseau social de Ségolène Royal.
Oh, ça, c'était une arnaque, c'est génial.
Oui, bah c'était lui.
Bah c'était lui.
Complètement étranger à la politique, hein. Je vous avais prévenu.
Très très loin de la politique.
Je vous avais prévenu. Et un dernier, parce que je le trouve pas mal aussi celui-ci, c'est Jean-Michel Blanquer, ministre de l'Éducation nationale. Alors lui, il était directeur de l'ESSAC, hein, l'une des plus grandes écoles de management française.
Privé.
Et, hein ?
Privé.
Quel qu'est
management.
Arrête. Oui, non, mais c'est, faut le dire. Quoi.
Et ancien recteur de l'académie de Créteil, pardon. Et alors lui-même, hein, ce Jean-Michel, il a dit « J'ai jamais fait de politique ». Bon, il en a effectivement jamais... Il a jamais été militant, mais bon, il a quand même une longue carrière en fait dans l'administration. Vu que de 2006 à 2007, il était... directeur adjoint du cabinet du ministre de l'Éducation nationale de Jacques Chirac. Et de 2009 à 2012, sous Sarkozy, il était le numéro 2 du ministère dirigé par Luc Chatel à l'époque. Bon, je pourrais continuer comme ça encore beaucoup quand même. Hein, parce...
Non mais c'est intéressant sur un point, c'est que ça relève du vieux fantasme français qui est une connerie absolue. C'est les hauts fonctionnaires ne font pas de politique et n'ont pas d'idées politiques. Donc du coup, on peut les garder, qu'on soit de gauche, qu'on soit de droite quand on dirige, mais c'est une connerie absolue. Alors, j'aime pas le système américain, mais ils ont au moins une honnêteté dans le système américain, c'est quand arrivent, par exemple, les démocrates perdent le pouvoir et les républicains le prennent, comme ça a été le cas avec Donald Trump, vous avez entre 10 et 15 000 hauts fonctionnaires qui s'en vont. Parce qu'en fait, bah, ils disent oui, on est lié au parti démocrate, donc on peut pas rester, et bah, on va les mettre des gens qui ont les idées du président. En France, non, ils bougent pas.
Sinon, on n'a pas pensé que c'était que des emplois fictifs depuis maintenant.
Peut-être, je sais pas.
Peut-être. Oh, ce serait encore plus énorme, je sais pas. Enfin.
C'est peut-être ça, en fait.
Et comme je vous disais, effectivement, je pourrais continuer comme ça encore pas mal de temps, en fait, je pense. Bon, attention, hein, il ne s'agit pas de dire que tout c'est comme ça. Il y en a quelques-unes. Je pense à Laura Flessel, par exemple, qui est au ministère du Sport. Bon. J'ai tendance à dire que ça, c'est un peu des exceptions qui confirment finalement un peu les règles.
Oui, mais je suis même pas d'accord quand on dit pour Laura Flessel. Parce que finalement, elle s'est impliquée dans plusieurs causes. On ne peut pas lui enlever. Et quand on s'implique dans une cause, qu'on est marraine de quelque chose, on fait de la politique. Il faut arrêter de déconner. Quoi. Je veux dire, quand on est marraine des Gay Games à Paris parce qu'on veut soutenir l'égalité entre les homosexuels et les hétérosexuels, je suis désolé, on fait de la politique. Il faut arrêter de... Voilà,
je ne suis pas complètement d'accord avec toi quand même, pour le coup. Mmh. Je trouve que si tu... Oui, on est en causerie, on débat un petit peu de temps en temps. Si tu peux pas te retrouver là, quand même, ça n'a aucune envie de faire de la politique. Donc, que la personne ait déjà fait un petit peu de politique, est-ce qu'on peut considérer toujours que c'est de la politique d'avoir défendu des causes et des actions ?
Non, mais ce que je veux dire,
pas convaincu sur le sujet. Quoi.
Ce que je veux dire, c'est qu'elle a un réseau. C'est-à-dire que quand tu te retrouves à la tête du plus grand, parce que les Gay Games, par exemple, c'était énorme, c'est un truc international. Bon, bah, tu te crées du réseau. Et donc après, forcément, on pense à toi quand on a un ministère. Alors que si t'es vraiment qu'un grand sportif, on va pas venir te chercher juste parce que t'as couru le 100 mètres en 5 secondes. Vous voyez ce que je veux dire, c'est que il y a aussi une question de réseau politique, et c'est pas grave en soi, mais c'est juste de dire on est en dehors de la vie politique. Bah c'est pas vrai, quand on s'est affiché comme ça avec la mairie de Paris, avec le ministère des Sports, qu'on a posé sur toutes les photos, bah automatiquement on a un réseau, et c'est pas grave en soi. Mais moi, de me dire elle a pas fait de politique ou elle avait pas de réseau politique, ça me fait sourire, parce qu'on se retrouve pas ministre du jour au lendemain en sonnant à la porte de Macron en disant bonjour, je voudrais être ministre, quoi. Ça marche pas comme ça, quoi. C'est ça que je voulais souligner, c'est que elle est déjà dans le jeu politique, et c'est pas grave en soi, mais c'est juste que dire elle le fait pas, je suis pas d'accord. Enfin, moi, c'était juste mon point de vue. Voilà.
Bon. Je termine. Et
ouais, termine.
On a une heure et demie de débat.
Et donc, en fait, enfin, moi, ce que je voulais surtout poser, c'est qu'en fait, cette société civile, en fait, ça dit pas grand chose, en fait. Ça dit tout et ça peut dire son contraire. Et qu'en fait, cet ensemble de mots est absolument vide. Et ce qui est intéressant, c'est si vous cherchez société civile, waouh, ça a été nommé, mais ça fait abuser, mais des centaines de fois dans l'histoire, on va dire, de l'humanité, hein. De l'Antiquité jusqu'à la sortie de l'URSS. Enfin, c'est très vaste et très large, et tout le monde en parle, donc c'est quand même assez rigolo. Ce que je me suis aussi dit, c'est que on peut se rendre compte aussi que c'est un peu une forme de négation des parcours de certaines personnes présentes dans les différents cercles du pouvoir, etc. Parce que je veux dire, pour moi, l'idée, c'est pas de dire ces gens-là n'ont pas le droit de gouverner. De toute façon, enfin, je suis contre les gouvernements, mais c'est pas l'idée, en fait. Enfin, c'est que moi, t'assumes, en fait. Enfin, c'est pas grave. C'est même plutôt sain, en fait, de faire de la politique et d'être politique. C'est juste pourquoi on veut faire croire aux gens que ces gens-là ne sont pas politiques alors qu'ils ont des parcours politiques. Et encore une fois, je pense qu'on a tous des parcours politiques. Sans être dans des partis ou quoi ou qu'est-ce, nos actions, nos manières de faire, etc., sont politiques en elles seules, en fait, quoi. Et que donc, en fait, on est loin, enfin, c'est ça un peu le truc aussi, c'est qu'on est loin d'une société zéro, d'une société qui serait neutre, et que, en fait, déjà, la neutralité, enfin, pareil, hein, j'y crois pas, enfin, la neutralité, ça n'existe pas, en fait. C'est très difficile d'être neutre, absolument, sur des choses aussi importantes que la gestion de la vie commune, quoi.
Les outils peuvent être neutres, comme on dit. La neutralité du net, par exemple, ça veut dire quelque chose.
Oui.
Par contre, les humains, je crois pas, hein. Enfin, vu qu'on a quand même une conscience, c'est un peu compliqué d'être neutre.
C'est un petit peu ça. Bref, pour terminer, en tout cas pour moi, c'est que la démocratie représentative, reste ce qu'elle a toujours été, et ce pourquoi elle a été créée, c'est-à-dire pour les bourgeois, pour les patrons, pour ceux qui dominent et qui possèdent, pour les hauts diplômés aussi, ça c'est nouveau, hein, mais c'était pas forcément il y a des dizaines, des centaines d'années, mais là on sent bien quand même. Et quand on sait, comme Fab, enfin, j'y ai repensé, il avait fait un truc sur la notion des diplômes et des diplômés. Quand on sait que les très hauts diplômés sont une ultra minorité, c'est quand même très drôle d'en retrouver autant dans un gouvernement, en fait. C'est vraiment, il y a des trucs des
fois. Et à l'Assemblée nationale.
Et à l'Assemblée, évidemment. Et donc, en fait, bah, pour moi, enfin, cette société civile, en fait, c'est qu'un dérivatif, en fait. C'est pour nous faire croire que ce gouvernement et que ce mouvement en marche, qui serait ni droite ni gauche, déjà ça c'est un truc que j'adore, quand souvent t'es ni droite ni gauche, t'es au moins un petit peu de droite, et qui serait la clé pour nous représenter. Bref, encore une fois, pour moi, on change la forme pour ne rien changer au fond, et que à nous donc, je le pense vraiment, de renverser le fond pour en changer la forme, et que point de salut en dehors de la démocratie directe. Voilà.
Je vais juste continuer un petit peu sur ce que tu as dit. C'est très politique, en fait, ce qui s'est passé, finalement. C'est un magnifique abus de langage, parce qu'il ne pouvait pas dire une société représentative. Enfin, il ne pouvait pas.
Ah non, il ne pouvait pas.
Il ne pouvait pas, parce que là, par contre, c'est vraiment pas crédible. Donc, ils ont essayé de le faire croire en disant société civile, en disant on va ramener des gens, et c'est vrai que les statistiques le donnent, hein. Le nombre de diplômés, etc. Enfin, combien il y en a qui étaient payés au SMIC il y a 6 mois, qui se retrouvent à l'Assemblée maintenant? Non, il n'y en a pas, je suis désolé.
Il y a plus d'ouvriers à l'Assemblée nationale, alors que les ouvriers représentent encore 19% des salariés français. Voilà, c'est un exemple typique, c'est-à-dire que 19% des gens qui travaillent sont des ouvriers, et il y en a pas à l'Assemblée nationale. Donc c'est une fois qu'on a dit ça, en fait, on a fait le tour, c'est-à-dire que c'est la preuve qu'on n'est pas dirigé par des gens qui nous ressemblent, en fait, contrairement à ce qu'on croit.
Et encore, effectivement, je me suis pas attardé sur la notion de, justement, de diplôme, hein, parce que là,
c'est mort.
Enfin, les gens comme moi, qui sont avec peu de diplôme ou sans diplôme, ils se mettent à pleurer, hein, je pense vraiment, parce que on en est très, très loin. Donc,
t'as terminé ?
Oui, j'ai terminé.
Donc, oui, on va passer au bref.
Ah, ben ok, d'accord.
Et on mettra le dernier titre.
On fait
après.
Sauter le titre.
Oui.
Ok.
On fait ça tout en direct. Parce okay, que toi qui nous
quelle organisation.
Toi qui nous écoutes, sache qu'on s'est encore planté sur notre timing horaire. Et que nous sommes en retard.
Toi qui nous écoutes, tu as eu le bonheur de nous écouter encore plus longtemps que d'habitude.
Ça peut le dire comme ça. Un jingle bref à ton tour.
Papapou, c'est les brèves.
Voilà. Et vous savez quoi ? Eh ben comme là c'est beaucoup beaucoup de choses à annoncer, je vais y aller vite. Alors mardi 4 juillet, dans le cadre de la semaine de la lutte contre l'A45 et son monde, arrivée de la marche contre l'A45, c'est vers 14h à l'hôtel de région à Confluence, hein, pour ce donc métro, enfin tramway arrêt Confluence, avec des débats, une occupation sympa. Je ne sais pas ce que c'est une occupation sympa. Je reprends ce qu'elle a écrit. Alors pour plus d'infos, gr45@riseup.net ou il y a une infoline, oui. Une ligne téléphonique d'information 06 82 92 08 77. Je répète, 06 82 92 08 77 pour plus d'infos sur cette initiative contre l'A45. C'était une semaine, ça fait deux semaines quasiment que ça dure, enfin une grosse semaine en tout cas, qui a de plusieurs choses autour de contre cette A45 qui, rappelons-le, est une nouvelle autoroute qu'on veut faire de Lyon à Saint-Étienne, alors qu'il y a déjà l'A47 et que celle-là, par contre, on veut la faire payante avec Vinci derrière ou chez Bouygues, et voilà, et du coup c'est pour ça. Et on a, et donc en annonce militante, non, c'est les vacances, j'ai plus rien.
Ah bah oui, non, là amis pauvres exploités, tout ça, ben tu reviens en septembre, parce que
moi, j'ai un truc, j'ai des amis qui font quelque chose, donc je vais en profiter.
Ah bah oui, vas-y.
Alors plus ça va être très vague, ça va être la plus mauvaise brève du monde. C'est mardi soir à Iseron, il y a un truc à ta tendance écolo. Il y a de la musique, il y a plein de trucs, il y a des conférences, voilà, pour l'énergie, tout ça. Donc si vous êtes dans le coin mardi soir, allez-y, parce que ils ont beaucoup de nuits blanches pour travailler là-dessus, donc il faut bien qu'il y ait des gens. Donc allez-y, faites du monde et faites du bruit et écoutez ça, parce que ça rejoint un petit peu en plus la chronique de Fab sur l'écologie, il faut bien qu'on y aille un jour, quoi.
Oui, faudra. Il en va de notre survie un petit peu. Et si un dernier rendez-vous, c'est la causerie de la semaine prochaine où nous recevrons Anaïde, qui est une chanteuse et pas que chanteuse, elle interprète mais elle est aussi compositrice si je me souviens bien. Et j'ai pas le site internet sous les yeux, mais je sais que si vous tapez peut-être Anaïde, vous devez trouver sur internet quelques extraits, je crois, de ce qu'elle a
pu. On mettra le lien sur le blog.
Ce qu'elle a pu chanter. Donc voilà, la semaine prochaine, causerie 22h, 23h.
Causerie musicale, donc.
Ben ouais.
Musiquerie.
Musicale.
Non, mais la causerie et le musical, c'est la musiquerie. Oh là là, mais si même des jeux de mots foireux passent pas à 23h, moi j'arrête, je fais plus rien. Je viens plus, c'est bon.
T'as raison, arrête.
Et bon.
Enfin, il a compris. 4 ans, je crois. Hein. Oh là là. Allez, 210e, enfin, il comprend.
C'était ma dernière causerie ce soir.
Bon. On va quand même se quitter. Oui. Parce qu'il est 23h01. On se quitte avec un dernier titre, c'est Apache. Le titre, c'est No a la Exclusion. Et c'est un titre qui vient du Venezuela. Et j'en profite pour saluer Esteban. Je ne sais pas s'il nous écoute. En tout cas, tous les copains et copines militantes, anarchistes et pas que, mais qui militent pour être libres, même sous des.
Dictature.
Dictature de gauche autoritaire. Voilà. Et bonne écoute et puis à la semaine prochaine.
Bonne semaine, amusez-vous bien.
Salut.
Ciao.
Ciao.
Ladies and gentlemen, señoras y señores, el motivo de este tema es pa' que ya no nos ignoren, pa' que aprecien y valoren el word de los escritores y le den honor y a quien de verdad sí merece honores. Por favor, bajen sus dedos y no nos señalen, que ustedes no saben que en esto tenemos señales, grabando nuestros discos, proyectos audiovisuales y llevando el rap a escenarios internacionales. Pero aquí es distinto, no sé si afuera es igual, que el rap lo quieren seguir vinculando a lo criminal, solo porque dos o tres sus letras hablaron de pistola, la quieren venir a pagar con los que sí le echan bola, pero de bola, si sale un guasipati bien vestido, de esos que son conocidos, cantando un tema movido, tú los ves a todos los medios dándole promoción y enviando a la generación canción falta de contenido.
Así cualquiera papi,
no jodas, si cualquiera es banda, pagando propaganda pa' que te suenen en banda, pero ¿por qué no anda y sacas
robas el supuesto millón y lo inviertes al rap, pa' por lo menos darle un empujón, cabrón. Disculpen la expresión, pero es que estos bla bla y creen que impresionan con sus convitos y sus Bugatti. Por aquí también nos la vacilamos a los Rastafari, porque como dijo Khan, esta vida no tú es party, brady. Así que ya vamos a dejarnos de cuento y darle el puesto que se merece este movimiento. Me ponen contento los que se apoyan nuestro talento y nos toman en cuenta en sus producciones y en sus eventos. No como estas premiaciones que discriminan la música del muchacho que provino de la esquina, camellando, laborando, pinchando en bambalina y rompiendo tarima en casi toda América Latina. ¿Y dónde está su ética y profesionalismo? Después dicen que en este mundo no hay clasismo. Se llenan la boca diciendo que somos los mismos y a la hora de la chiquita nos lanzan por un abismo. Pero aquí seguimos fieles, leales a una causa que nació hace años, que hoy en día ya no tiene pausa. Los rap influyentes que actualmente aquí siguen presentes, dando aportes al crecimiento del rap independiente. Gracias a todos los oyentes, a todos los exponentes que hoy con su lucha esto mantienen vigente, regando la voz con el 1-2 y hip hop consciente, haciendo que nos respeten en todos los continentes. A la exclusión y a la discriminación, no queremos más boicoteo ni división. Será mejor que nos presten más atención, o sino que se abstengan a nuestra opinión. No a la exclusión ni a la discriminación, no queremos más boicoteo ni división. Será mejor que nos presten más atención, o sino que se abstengan a nuestra opinión. En el